Vous êtes passionné? Quand on est passionné, on oublie bien d'autres choses. Hein. Tu te rappelles quand tu avais la passion? Il y en a certainement qui sont passionnés du foot ici, non? Ils sont capables d'oublier de lire la Bible, non? Un peu méchant ça, hein? Mais une passion, ça nous emporte. Une passion, ça nous fait découvrir qui nous sommes. Une passion, ça nous prend quelque part et ça nous prend pas seulement dans l'intelligence, la réflexion. Ça nous prend physiquement, psychiquement, une passion, ça nous prend complètement. Mais c'est bien d'être passionné pour quelque chose ou quelqu'un qu'on connaît. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens qui aiment beaucoup Jésus à Noël. C'est sympa, hein? Tu vois le bébé, quand il pleure, tu le mets un peu plus loin, surtout quand tu es grand-père. Tu le laisses après de nouveau à sa mère, tu vois, quand il pleure. Et puis, c'est bien. Tu passes du temps avec le bébé, tu te réjouis au bébé. Puis après, tu l'oublies de nouveau. Ce n'est pas ton rôle, tu le mets de côté. Il y a des chrétiens comme ça. Tu es passionné. J'aimerais que tu oublies que tu es assis ici à la convention, juste un moment. Et que tu te remets dans ta cuisine, il y a un tas de vaisselle, les gens viennent de partir. Juste pour te rappeler qui tu es. Juste pour sortir du contexte de certaines situations où d'un coup on pourrait presque oublier qu'on est passionné, mais que dans le quotidien, on a plein d'autres passions. Et que c'est seulement dans un certain cadre qu'on a de nouveau la passion pour notre Sauveur. Oh non, ce n'est pas une accusation, pas du tout. C'est simplement pour réaliser qui je suis, qui nous sommes. S'il y a dans notre vie une certaine dichotomie, une séparation entre notre connaissance théologique et l'application pratique du quotidien, entre tout ce que nous savons déjà et que nous apprenons avec joie au sein de l'Église, au travers de tous les enseignements. Et puis notre regard sur le migrant qui passe, sur les pauvres autour de nous, notre regard sur ceux qui nous insultent. Notre vie où, comme la mienne, où chaque fois il faut que je m'oblige à repartir pour distribuer des évangiles, distribuer des traités, parce que j'ai toujours encore la difficulté avec le rejet. Et pourtant Jésus a dit que ça fait partie du bonheur du vrai disciple. Tu connais les béatitudes ? Heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous, lorsqu'on vous rejettera. Oh, j'ai de la peine avec ça, je ne sais pas comment tu le vis. C'est là que je ressens quelquefois que la passion pour mon maître est très fragile. Et que je suis passionné aussi pour me défendre moi, et cette passion, elle devrait mourir. Et elle colle tellement à Daniel Herman. La passion de me justifier, terrible. La passion d'avoir raison, tu la connais ? Terrible. Le désir de connaître de plus en plus et d'avoir d'un coup complètement oublié que j'ai rien appliqué de cela. J'ai enseigné et j'ai suivi plein de formations de disciples. Et beaucoup de ces bien-aimés ont un super classeur dans l'étagère. Comment faire des disciples ? Génial. Et quelquefois, c'est tellement décevant de réaliser dans ma vie cette distance, cette distance. J'aimerais m'arrêter quelques moments avec vous sur la dernière vision, le portrait que la Bible nous donne. Qui est Jésus? Bien sûr, il est le Sauveur pour ceux qui sont nés de nouveau. J'aimerais pas que tu sois parmi ceux qui suivent simplement et qui sont pas nés de nouveau. Parce qu'un jour, tu arriveras là-bas et puis tu dis, « Ouais, mais Seigneur, j'ai été à la convention 1, 2, 3, 4, 19, 20. Tu te rappelles pas de moi? J'ai prêché en ton nom? J'ai guéri des malades? » C'est un texte biblique. Et Jésus va dire, « Je me souviens pas de toi. Franchement, je me souviens pas de toi. » D'ailleurs, ça, c'est pas dans la Bible. D'ailleurs, je t'ai jamais vu dans une réunion de prière à l'église. Je me souviens vraiment pas de toi. Quand l'Esprit de Dieu travaille dans nos vies, il y a quelque chose qui change. Dans notre vie, dans notre culture, je ne suis pas belge de culture, mais alsacien, c'est presque pareil, un peu moins bien, mais presque pareil. Dans notre culture, nous avons quantité de choses qui ont été placées dans notre éducation, des façons de faire ou de ne pas faire. On fait ça, on ne fait pas ça. Et chacun comme ça dans sa culture. Et quand il y a le Saint-Esprit et la nouvelle naissance, quand l'Esprit de Dieu rentre, c'est comme s'il y avait un nouveau programme qui va écraser les autres programmes qui sont sur le disque dur. Le disque dur de notre conscience et le disque dur de notre mémoire et de notre éducation. Et en lisant la Bible, la parole de Dieu, ce disque dur, ce nouveau programme se précise et révèle quantité d'éléments qu'il va écraser sur l'ancien programme. Il ne va pas simplement les modifier. Certains points, il va les détruire. Les détruire. Parce que quand tu as reçu Jésus, tu n'as pas simplement eu un sauveur. Tu as changé de maître. Tu as changé de maître. Dans notre ministère, nous avons souvent des situations avec des gens qui sont profondément liés dans l'occultisme, avec des puissances ennemies, des démons. Et quand ces gens changent de maître, les choses sont très visibles. Il y a un nouveau maître qui s'installe. Et ce nouveau maître qui s'installe, il veut absolument toute la place. Dans Apocalypse au chapitre 1er, tu te rappelles, tu connais la Bible. Apocalypse chapitre 1er, c'est Jean qui est sur l'île de Patmos, en captivité là-bas, dans un camp de travail. C'est à cause du témoignage de l'Évangile qu'il a été conduit là, dans un camp de travail sur l'île de Patmos, où il y avait certainement des gravières, et où il était en train là de devoir travailler. Et où dans ce camp de travail, il y avait toujours à nouveau des gens qui mouraient, sous la peine, par la fatigue, par l'épuisement. Et c'est là, dans ce camp de travail, que Jésus se présente à lui. Et c'est là que nous avons le portrait merveilleux de Jésus, Jésus après la résurrection. Jésus, celui qui est, celui que nous connaissons aujourd'hui, celui que nous acclamons aujourd'hui, celui pour lequel nous vivons aujourd'hui, toi et moi. Je lis un passage. « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». Envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris ce que tu as vu jusque-là. » T'as peur de mourir ? T'es à l'aise ? Tu te réjouis ? C'est celui-là que tu vas rencontrer. Où les racines sont encore trop fortes sur terre pour le départ ? Jean, dans l'île de Patmos, y voyait mourir d'autres. C'était tellement réconfortant de sentir la main de Jésus sur l'épaule et d'entendre « Ne crains point, c'est moi Jésus qui ai les clés de la mort. C'est moi qui décide du moment de ta fin. En es-tu conscient ? C'est un grand repos, ça. Pour des jeunes comme moi, c'est super. C'est lui qui décide. Quand Jésus a parlé, au verset 12, il a dit de ce que Jean écrit, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. » Ça, c'est la vie du passionné. Celui qui, toujours à nouveau dans la vie, est prêt à arrêter, à se retourner. Pour écouter Jésus, pour lire la parole, pour saisir qui il est, pour réaliser qui est réellement le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu es comme moi dans une société qui veut te faire courir, qui veut te faire oublier l'essentiel, qui t'oriente dans une course terrible au travers de toutes les informations possibles. Et quelquefois, tu cours sans savoir pourquoi tu cours. Mais l'ennemi de nos âmes sait qu'il a peu de temps jusqu'au retour du Seigneur. Et il voudrait nous faire courir sans connaître Jésus. Il voudrait nous faire courir pour oublier que l'intimité avec Jésus est indispensable pour être passionné de lui. On a chanté tout à l'heure qu'il nous a donné la puissance dans la prière. Nous sommes dans une nouvelle implantation d'église. Le point qui a besoin de plus d'encouragement, mais qui nécessite énormément de volonté, c'est la prière. Aucune église est née d'une bonne stratégie. Et au travers de tous les siècles, beaucoup d'églises sont nées par la prière. Et l'ennemi mettra tout en œuvre, que les réunions de prière deviennent impossibles à suivre. Tu as un tel programme, tu peux quand même parler à la réunion de prière. Et pourtant, C'est la multiplication des réunions de prière, avec le zèle de parler à Dieu, de souffrir en voyant tous les perdus qui sont autour de toi, où tu réalises le mieux après comment Dieu exauce des prières, qu'il est réellement le roi des rois. C'est Jésus qui a dit « J'implante mon Église, je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas une mission, ce n'est pas une stratégie qu'il a dit. C'est Jésus qui l'a dit, c'est son Église. Et il veut collaborer avec ceux qui parlent avec lui. Un peu normal, hein? Si tu es dans une entreprise et que tes collègues ne parlent jamais avec toi, c'est une collaboration pénible, hein? Difficile. Tu ne restes pas dans une église où les gens ne parlent jamais avec toi. Pourquoi Jésus devrait rester dans une église où on ne parle pas avec lui? C'est tellement vrai. Et le diable le sait tellement bien qu'il essaye de nous enlever la passion du dialogue avec Jésus, la passion de l'ouverture du cœur dans l'intimité, la passion de tout lui dire, la passion de réaliser que c'est notre point le plus fort en tant que créature de Dieu. Créé à sa ressemblance, il nous a créés pour être en dialogue avec nous. C'est le Dieu trinitaire qui en réalité a voulu déjà le dialogue dans la Trinité. Jésus a passé des heures de nuit pour être en contact avec son Père, parce qu'il ne voulait rien faire sans être en union, en harmonie avec son Père. Il avait besoin de cette harmonie, de ce dialogue avec le Père. C'est la clé des siècles, cette intimité avec lui. Et Jésus ici, Jean le voit au milieu des sept chandeliers d'or. Et qu'est-ce qu'il a? Jésus porte la robe du souverain sacrificateur. C'est lui qui intervient toujours entre le peuple et Dieu, le Père. Et c'est lui qui toujours rappelle au peuple ce que Dieu le Père veut. C'est pour ça qu'il nous a donné les évangiles, pour nous rappeler ce que le Père désire, la volonté du Père. Et il prendra toujours soin de le faire, et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, comme dit la parole de Dieu. La vérité de Dieu et la vérité sur moi. Je ne sais pas combien d'années il faut dans une vie humaine pour devenir vrai. Moi, je n'y suis pas encore tout à fait, et j'ai déjà 20 ans passé, un peu plus. Tu vois, le côté être vrai, pas différent dans les situations différentes, vrai, être ce que je suis, dans la dépendance avec le Seigneur. Tu vois le côté vrai, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais le Saint-Esprit travaille avec une compassion merveilleuse, mais aussi avec une intransigeance. Un péché est montré par le Saint-Esprit, pas simplement pour le montrer 10 fois. Il est présenté pour que je demande pardon et que je clarifie ma situation. Il n'y a pas de grâce bon marché. Tu sais, dans le style, on gracie tout, même si on ne demande pas pardon. C'est comme dans la vie de couple, hein, pour ceux qui sont mariés. Tu connais le truc de la vie de couple? On demande, après un certain temps, on a l'impression qu'il ne faut plus demander pardon, hein. Parce qu'il est habitué que je suis comme ça. Mais il doit savoir que ça m'énerve, non? Depuis les années qu'on est ensemble. Ben non, si c'est péché, j'ai à demander pardon. C'est à moi de déclarer mon péché. C'est à moi de le reconnaître. La longue robe, une ceinture d'or à la poitrine. Pourquoi je me réjouis tellement? Parce que dans Daniel, le prophète Daniel, au chapitre 10, Daniel a vu Jésus. Jésus avant la croix, Jésus avant de venir sur terre, Jésus déjà dans l'éternité, Jésus au ciel. Et Daniel, le prophète, a vu Jésus. Et tu peux le relire dans Daniel 10. Et il a vu Jésus avec la ceinture d'or sur les hanches. Et c'était de telle façon, quand un roi allait à la bataille, il remontait les pans de sa robe, les coinçait dans sa ceinture d'or, et allait à la bataille. Il n'était pas derrière dans un blocos, il marchait devant, et il avait les commandos qui le suivaient pour le protéger. Et quand il gagnait la bataille, il descendait les pans de la robe et il montait sa ceinture d'or sur la poitrine. Il revenait et le peuple entier qui attendait, tu sais, à la sortie de la localité, criait « On a gagné !» Daniel, le prophète, a vu Jésus avant la victoire de la croix, avant ce temps où les ténèbres de midi à 3 heures ont dû faire place à un cri qui traversait les ténèbres et qui y remettait la lumière, le cri de « Tétélestai, tout est accompli ». Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. L'œuvre est parfaite. L'autorité du diable est détruite. Juridiquement, son autorité est détruite. Il est juste encore dans un temps où il peut continuer à agir. Mais son autorité a été détruite par l'autorité de Jésus. Une ceinture d'or sur la poitrine, et sa tête était comme des cheveux blancs. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que les cheveux blancs sont un signe aussi de sagesse. Ce n'est pas toujours vrai, mais bon. C'est un signe de sagesse. Mais ce qui m'encourage beaucoup, c'est qu'un des frères de Jésus qui a écrit l'épître de Jacques dit dans le premier chapitre, « Si tu manques de sagesse, j'en connais un. Jésus, il a toute la sagesse qu'il te faut. » Tu n'as pas l'impression qu'il nous faut énormément de sagesse pour vivre dans ce monde sans être du monde ? Jésus a prié pour nous pour cela dans Jean 17. Il a prié que nous soyons un comme le Père et lui sont un. Mais il a prié aussi, dans la même prière, d'aider les disciples à vivre dans le monde sans être du monde. Tu connais l'histoire de l'Église. Quelquefois, l'Église a essayé de sortir du monde pour être tranquille. Ils ont mis des murs autour, on ne les touche plus. Mais ce n'était pas son rôle. Vivre dans le monde sans être du monde est une bataille. Est la nécessité d'une relation personnelle avec Dieu, est la nécessité d'une vie de prière. Sinon, il n'y a qu'un chemin, c'est d'entrer péniblement dans la tiédeur. Mais tu ne voudrais pas non plus que Jésus te vomisse. C'est ce qu'il dit dans une des églises, dans l'Apocalypse, par rapport à la tiédeur. Tu ne voudrais pas ça. Tu voudrais quand même la proximité, l'amour pour lui, la passion pour celui qui a tout fait pour toi. Tu voudrais qu'il soit de mieux en mieux connu par ton cœur, par l'intimité avec lui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pas des flammes de feu pour détruire, des flammes de feu pour purifier, pour purifier. Si tu ressens son regard au travers de ta lecture de la Bible, rappelle-toi, les flammes de feu sont là pour purifier. Il ne voudra jamais te détruire. Il a beaucoup trop payé pour toi. C'est lui qui a payé le prix entier. Mais ce qu'il désire, c'est de te préparer, de me préparer pour les noces de l'agneau, parce que l'Église est son épouse. Et tu sais combien une fiancée peut se préparer et faire belle quand les noces approchent, hein ? Quel boulot ! Et quel travail dans notre cœur, dans notre vie, dans ma vie. Et quelle patience à Jésus et le Saint-Esprit pour purifier mon existence. Et quel temps perdu quand je ne me laisse pas purifier. quand je lui donne l'impression que moi j'ai raison et pas lui. Quand je commence à argumenter, tu connais cette maladie, l'argumentation ? Ça peut te faire des nuits blanches, ce truc, hein, où tu parles avec, contre quelqu'un, etc. Et les gens ne sont pas là, mais voilà, on t'a blessé, puis tu dialogues là-dedans, et puis ça te fatigue terriblement, hein, parce que tu as raison. Seulement, tu as vraiment tort d'avoir raison, hein, parce que ça t'épuise. Sur cette planète Terre, tu dois accepter que l'injustice est présente. Si tu veux t'opposer à toutes les injustices, tu te détruis. Puisque la planète est marquée par la chute. Et il y aura toujours des injustices. Mais ces injustices ne doivent pas te fatiguer parce que tu veux travailler pour ton Sauveur. Et ce qu'est ton travail, c'est seulement une attitude. C'est aimer. C'est tout le programme. Quand l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe, il a mis au centre de tout, tu t'en rappelles, l'église de Corinthe est une église où personne n'aurait aimé être volontairement ancien d'église. Je pense, hein, si tu connais l'épître, tu dis, waouh, la salade là-dedans, oh là là, il y a du boulot, hein, faut redresser tous les trucs. Et il parle d'une façon merveilleuse en disant, nommant les péchés avec leur nom, ce qui est toujours génial parce qu'au moins on sait qu'est-ce qu'il faut en faire, hein, quand il y a le nom qui est clair. Et puis ensuite, il parle des dons spirituels pour arriver au centre de l'Évangile, 1 Corinthiens 13, l'amour. Tu peux avoir n'importe quel don. S'il n'y a pas l'amour, tu peux remballer. L'amour est le centre de l'Évangile. Mais cet amour n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est un engagement, c'est un courage. C'est ce qu'on n'a pas sur le plan de la nature. C'est pour ça que aimer demande une vie de prière. Parce que dès que j'ai l'impression d'aimer, le Seigneur met quelqu'un sur ma route que je ne supporte pas. Tu vois le truc ? Il aurait pu faire mieux quand même. Mais non, Dani, c'est juste que tu parles avec moi de cette personne et que je puisse te donner l'amour pour cette personne. C'est juste pour ça. Oui, mais Seigneur, un peu de trucs faciles, ça serait sympa aussi. Continue, je te tiens, continue. Tu l'apprendras. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Elle couvre et recouvre tout. Il est plus fort que tout. Et tout en étant plus fort que tout et tout puissant, tout en remportant toutes les victoires, il s'est posé sa main droite sur ton épaule. Tu n'es pas insignifiant si tu es ton enfant, pas du tout. Tu n'es pas secondaire. Ce n'est pas les dons que tu as qui te donnent la valeur. Ton identité, c'est Jésus. C'est ta nouvelle nature qui est à la valeur. Ce n'est pas non plus l'œuvre que tu fais qui donne la valeur. Ce n'est pas parce qu'on a implanté des églises qu'on est mieux. Pas du tout. La valeur, c'est l'identité en Jésus. Et pour être en Jésus, il y a quelque chose qui est une contradiction. Jean-Baptiste nous l'a déjà donné et dit cette contradiction. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue.
Il faut que Jésus devienne plus grand et Daniel Herman plus petit. Il faut que l'attachement à lui devienne plus fort.
Et si je suis plus fortement attaché à lui, je découvre encore mieux tout ce qui doit changer dans ma vie. Je bénis, je remercie le Saint-Esprit qu'il ne m'a pas montré à l'âge de 19 ans, la nuit de la conversion, ce qui devait changer dans mon existence. Je pense que j'aurais eu un découragement à mort. Mais progressivement, sur le chemin de la vie, maintenant avec mes 73 balais, je réalise combien il est fidèle. Et il continue à me montrer. Là où il me reprenait autrefois à cause d'une parole, d'une exagération, en me faisant bien comprendre, Dani, ça c'est mensonge. Exagération, tu sais, c'est mensonge.
Ouais, mais c'est, tu vois bien.
Non, non.
Non, non.
Si, mais... Non. Et après, ce n'est pas simplement les paroles, après, ce sont les pensées. Le Saint-Esprit continue son œuvre de purification. Dani, qu'est-ce que tu penses là? C'est pas pur ça. Pourquoi tu regardes ça? Ça t'aide rien, c'est pas pur ça. Pourquoi tu te souilles comme ça là? Tu es un saint. Si tu es né de nouveau, tu es un saint. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Dans l'ancienne alliance, tout ce qui était autour du tabernacle était des ustensiles qui étaient saints. Alors par exemple, là où on brûlait l'offrande, il n'y a pas quelqu'un du peuple qui pouvait venir vers le tabernacle et dire hey, « j'ai fait avec mes potes, j'ai fait un truc d'un barbecue, je pourrais avoir le brasier là pour faire mon barbecue chez moi ?» Oups, stop. Les ustensiles étaient saints. Ça voulait dire « mis à part pour Dieu ». Et maintenant, si tu es né de nouveau, tu es mis à part pour Dieu. Tu es à lui, mis à part pour lui. Je vais terminer. Hein. J'ai une minute pour le freinage final. Jésus était au milieu de sept chandeliers d'or qui sont les églises. Les sept chandeliers sont marqués dans l'Ancien Testament, dans Exode. Tu peux regarder ce que c'est un chandelier. Il est complètement en or, purifié. De l'or battu. Souvent l'or, l'Église a besoin d'être battue par des souffrances, par des difficultés. Pour découvrir la purification. Et ce chandelier avait des pommes et des fleurs, des décorations, on pourrait dire un peu inutiles, non? Si je dois faire un chandelier avec cette branche, ben je soude des trucs ensemble et je mets des lampes et c'est bon, ça suffit. Pourquoi des pommes et des fleurs et des machins? Parce que Dieu veut la diversité. Et ce chandelier, il était là pourquoi? Pour faire de la lumière et pour briller en face, nous dit la Bible. Et qu'est-ce qu'il y avait en face dans le tabernacle? La table de proposition des pains. Qui est le pain dans le Nouveau Testament? Jésus, le pain de vie. L'Église doit briller, non pas pour éclairer le chandelier, non pas pour être belle pour elle-même, mais elle doit briller dans les ténèbres du monde pour que le monde découvre le pain, Jésus, qui est juste en face. Et au milieu de ces églises, ce Jésus, roi des rois, sauveur, mais aussi Seigneur. Seigneur, tu es là et je te remercie. Parce que tu connais la vie de chacun d'entre nous, je te prie simplement que dans ta bonté, tu continues l'œuvre de purification dans ma vie, dans nos vies, dans ton Église,
et que tu nous aides à avoir un portrait juste de qui tu es et combien tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Et merci de votre attention.